Combat de championnat du monde entre Arthur Beterbiev et Fan Long Meng. Ça se passera le 28 mars prochain au Centre Vidéotron de Québec. Marc Ramsey, l'entraîneur d'Arthur Beterbiev, il est avec nous en studio. Salut Marc.
Bonjour.
Hey, merci de prendre le temps de te déplacer. C'est vraiment apprécié. C'est une grosse journée que tu as eu aujourd'hui?
Oui, une grosse journée. Beaucoup de boxeurs en préparation. Là. Alors, on a fait une journée de 12 heures aujourd'hui. Là.
OK. Comment tu sépares ton temps? Quand tu as Beterbiev, tu en as plein d'autres aussi à préparer. Comment ça marche ton horaire quotidien?
Ben, il y a toujours des dossiers qui sont prioritaires, comme en ce moment. Bien sûr, là, on a un combat de championnat du monde avec Beterbiev. Alors, c'est sûr que la majorité de mon focus se dirige vers lui. Bien sûr, j'ai une équipe d'entraîneurs adjoints là, qui me donne un bon coup de main. Je m'assure que chacun a un dossier bien précis pour pouvoir couvrir à peu près tout le travail qu'on a à faire. En même temps, je garde un œil là, sur tout ce qui se passe dans le gymnase.
Et dis-moi, comment on arrive à faire une bonne gestion de tout ça? Tu t'arrêtes, exemple, je sais pas, moi, le dimanche, tu dis « OK, je planifie ma semaine, tu planifies ton mois. » Comment ça marche?
Ça marche par semaine. Ben, en fait, chaque début de camp d'entraînement, on parle à peu près d'une période de 8 semaines de camp d'entraînement. Alors, on planifie pour chaque boxeur et par la suite, on planifie de façon hebdomadaire, s'assurer justement à la fin de semaine. Je prends le temps là, de bien préparer tout ce qui s'en vient cette semaine pour chaque boxeur et donner les tâches là, également à mes entraîneurs adjoints.
Marc Ramsey, comment ça se passe avec Beterbiev jusqu'à présent, sa préparation?
Très bien. Ouais. Très bien. On est chanceux. Il est arrivé déjà en bonne condition physique. Il avait pris là, 21 jours en altitude en Russie avant de revenir au Canada. Alors, il est arrivé dans une bonne condition physique et j'ai la chance pour une des premières fois de sa carrière, d'avoir une espèce d'air d'aller un momentum avec lui où, dans le passé, on faisait un combat et pour plein de raisons, des blessures, il y a eu quelques histoires également là, en dehors de l'arène là, qui font qu'il boxait une seule fois par année. Alors, là, pour la première fois en fait de sa carrière, on a un momentum où là, on enligne les combats et on recommence pas d'un point de vue technique à zéro à chaque camp d'entraînement.
Oui, Beterbiev, on le sait, il a 35 ans, champion WBC, champion IBF, 15 combats seulement. À un moment donné, en tant qu'entraîneur, est-ce que tu as dû gérer la frustration du côté de Beterbiev de ne pas se battre assez souvent?
Non. Il est resté pendant tout le processus, je te dirais qu'il est resté relativement calme. Il s'est toujours entraîné, il n'a jamais pris de congé très long. Alors non, émotivement assez stable, je te dirais, comme individu. Là.
Ben justement, parlons-en de l'individu. On connaît le boxeur, on sait qu'il est puissant, on sait qu'il est une menace sur le ring, on sait qu'il y a plein d'autres boxeurs qui ne voulaient pas l'affronter. C'est qui Arthur Beterbiev? Toi, tu le connais personnellement, c'est qui ce gars-là?
C'est un gars, première chose, très simple. Pas très compliqué, ni dans la manière de le gérer, ni dans sa vie de tous les jours. C'est un gars qui est vraiment concentré sur deux aspects, sa famille numéro un et son métier de boxeur numéro deux. Il laisse pas grand-chose autre rentrer par manque de temps, bien sûr, parce qu'il consacre là, la majorité de son temps justement à son entraînement et par la suite à sa famille. Mais c'est très, très simple à gérer. Là. On n'a pas grand-chose qui vient de l'extérieur nous empoisonner pendant notre camp. Là.
Quel genre de camp d'entraînement? On disait que c'est un camp à la Mike Tyson que vous voulez faire, que vous faites présentement. Ça ressemble à quoi, ça?
Ben, c'est à peu près toujours la même chose. C'est qu'en fait, on faisait une référence au camp d'entraînement que Tyson faisait dans les années 80, au nombre de partenaires d'entraînement. Ça nous en prend beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont venus, qui sont repartis très rapidement en avion. C'est pas tout le monde qui est en mesure de faire les camps d'entraînement avec Arthur. Je te dirais qu'un sparring, ça peut toujours aller de 3 à 4 rondes. Je dépasse rarement ça avec les partenaires d'entraînement. Comme en ce moment, on en a 4. Il y en a 2 autres qui arrivent la semaine prochaine. On parle pour un total de 6 en tout. Je lui donne rarement plus que 3-4 rondes de travail et il y en a beaucoup qui partent avant la date prévue là, de retour.
Mais est-ce que les gars se blessent?
Les gars se font faire mal. Les gars se font faire mal, comme j'ai mentionné. Un seul sparring, ça va toujours. Mais quand tu as 3 semaines d'entraînement à faire, à 3 séances par semaine, ça devient très lourd. Ça devient très, très difficile. Et il y en a avec un certain style qui sont en mesure de mieux faire. Mais en règle générale, là, ça devient très pénible.
Je lisais un peu l'historique d'Arthur Beterbiev et je voyais que ses idoles étaient, entre autres, Mike Tyson. Il a beaucoup apprécié le travail de Mike Tyson. Également, Mohamed Ali. On peut comprendre par la force de frappe Mike Tyson. Mohamed Ali, explique-moi, selon toi, le lien. Qu'est-ce que Arthur Beterbiev aime de Mohamed Ali?
Je pense qu'il aime premièrement l'individu, peut-être même plus que le boxeur. Il aime la manière qu'il s'est comporté tout au long de sa vie. Lui, la même discipline que je vous parle en ce moment, que je parle depuis longtemps aux amateurs de boxe du Québec qui frôlent la perfection, il veut l'appliquer également dans sa vie de tous les jours. C'est quelqu'un qui est très, très, très discipliné. Il veut être le meilleur homme possible. Alors, je pense qu'il y a une espèce de fascination d'Ali du du côté de ce qu'il représente, pas juste d'un point de vue de boxeur, mais d'un point de vue social également, de comment il se présentait dans la vie de tous les jours. Et bien sûr, également du côté du boxeur, Ali, le grand technicien qu'il était. Bien sûr, quand on regarde Artur Beterbiev, la première chose qu'on voit, c'est sa force de frappe, la force physique qu'il dégage. Mais il est beaucoup plus sophistiqué que les gens peuvent croire. Et je te dirais que ça me sert beaucoup comme entraîneur de boxe parce que la majorité des entraîneurs adverses font également cette erreur-là, où la concentration est portée vraiment sur sa force de frappe et non pas sur le raffinement qu'il a comme boxeur.
OK, fait que toi, tu utilises ça en tant qu'entraîneur d'Artur Beterbiev. Tu dis, on s'attend à ce que ça soit carré puis que ça frappe, tandis que lui est capable d'amener une facette dans le ring qui est complètement plus subtile.
Tout à fait. Et souvent, j'avoue que c'est pas évident. J'ai fait un peu cette erreur-là également les premières fois que je le regardais chez les amateurs. Je l'ai vu à quelques reprises là, dans les tournois internationaux et sur vidéo. Et c'est pas évident à déchiffrer un peu au niveau de la technique. Et encore une fois, ce qui est très, très évident, c'est sa force. Alors, mais quand tu commences à travailler avec lui ou que tu commences à faire des combats de pratique avec lui, c'est là que tu comprends que c'est pas juste, c'est pas quelque chose qui est cru. C'est quelque chose qui est raffiné, qui est apporté de la bonne manière. Et ça, c'est un double problème.
Dis-moi, Marc, quand tu es avec un gars comme Artur Beterbiev, tu l'as dit, extrêmement discipliné, à son affaire 100%, sur le ring, à l'extérieur du ring, on veut pas dire que c'est la perfection, mais lui vise la perfection. Ça, est-ce que ça te challenge, toi, comme coach?
Tout à fait. Tout à fait. Je te dirais que c'est arrivé dans ma carrière à un bon moment, un moment où ce que j'avais eu certains succès avec d'autres boxeurs. J'aime me challenger par moi-même, mais je te dirais peut-être qu'une certaine période où tu es un petit peu plus sur un cruise control, tu as développé une certaine recette, puis tu as un succès avec ça, puis là, tu la répètes. Puis il est arrivé avec non, là, on va être proactif. Là, on pousse les affaires, et puis ça, comme entraîneur, effectivement, ça te challenge beaucoup, mais c'est très enrichissant comme expérience, il n'y a pas de doute.
Donc, ce que ça veut dire, c'est que tu te valider avec lui que son background de boxe faisait en sorte qu'il était capable d'arriver avec un raisonnement qui va beaucoup plus loin que juste faire des push-ups puis de la corde à danser.
Non, tout à fait. Il aime participer à la prise de décision, que ce soit pour l'organisation du camp, que ce soit également pour la tactique, pour le choix des coups de poing, l'application technique du combat. Il aime participer à toutes les facettes. Il veut qu'on en discute et c'est un être assez intelligent pour pouvoir faire ça.
Et comment il voit ça, lui, Fan Longmang?
Ben, il voit un peu de la manière que je l'ai apporté. C'est sûr que c'est drôle. Le premier meeting qu'on a fait avec lui au début du camp d'entraînement, je lui ai mentionné, j'ai dit, écoute, le challenge sera pas tellement dans l'adversaire, mais dans ce que les médias vont transporter, dans ce que les fans de boxe vont dire. Tout le monde te voit comme un combat qui est simple, un combat qui va être court. C'est pas le cas. Fan Longmang est un gars qui a connu une grande carrière amateur, excellent contre-attaquant, beaucoup de bagages de boxe. C'est un combat, je te dirais, là, après le combat qu'on vient de faire avec Grozic, qui était le champion du monde avant Arthur, c'était peut-être le combat le plus compliqué de sa carrière. Alors, c'est quelque chose de plus dur que les gens vont lui mentionner pendant ces 8 semaines d'entraînement-là. Et à un moment donné, ça vient, même si t'es très discipliné, ça vient qu'à force d'entendre ce message-là, ça l'empoisonne un peu le subconscient. Et comme entraîneur, je voulais mettre en garde par rapport à ça. Il va falloir qu'on reste concentré tout au long du camp et s'assurer qu'on atteint les objectifs de camp d'entraînement, qu'on soit en mesure de livrer une bonne performance le soir du combat.
OK, fait que donc, ce que je comprends, malgré le fait qu'on pense que lui, dans sa bulle, dans un bloc, je dirais, parce qu'on le voit qui est extrêmement solide du visage, tu sais, puis on le voit concentré, ça peut même les ce qui peut entourer un ring, ce qui peut être dans les médias, ça peut le toucher, lui. Il peut même analyser qu'est-ce qu'il disait à l'extérieur.
Je te dirais peut-être un peu moins que d'autres boxeurs, que la moyenne des boxeurs, mais quand même, il n'est pas à l'abri de ça, comme chaque être humain. Et c'est un point sur lequel là, qu'il fallait insister au début du calendrier pour être sûr que ça ne soit pas un enjeu pendant la soirée de boxe.
On s'entretient avec Marc Ramsey, qui est l'entraîneur d'Artur Beterbiev, qui se battra le 28 mars prochain. C'est au Centre Vidéotron à Québec, combat de championnat du monde face à Fan Longmang. Donc, 16 victoires, aucune défaite du côté du boxeur. 15-0 pour Beterbiev, 16-0 pour Meng. Sauf que 6-2 versus 5-11. Je sais pas, moi, regarde, je regarde les stats, je suis pas un pro de boxe comme toi, je me dis, oups, l'autre a une grande portée. Comment tu vois ça, ce défi-là?
Ben, c'est quelque chose qui est existant, qui est réel. Alors, c'est de bien programmer Artur là, en conséquence. Vous savez, préparer un boxeur, il y a une facette très psychologique à préparer à ce qu'il va avoir à faire face, mais c'est la même chose de son côté, du point de vue physique. Et c'est dans la bonne préparation, répétition technique, bonne sélection des partenaires d'entraînement qui ont le même genre de physionomie. On parle de gars de 6-2 avec une longue portée, des contre-attaquants que leur boxe est basée sur la rapidité. Alors, c'est de programmer pendant 8 semaines comme il faut Arthur, pour le soir du combat, est en mesure de délivrer encore une fois une bonne performance.
Quand même pas évident de trouver des boxeurs gauchers à grande portée, assez grands pour le camp d'entraînement?
Non. Je te dirais qu'en règle générale, c'est dur d'y trouver des partenaires d'entraînement gauchers qui sont... et de là, le fait qu'on a 6 partenaires d'entraînement. C'est bien sûr au niveau de la résistance, on va être en mesure de pas avoir là, de se retrouver dans une partie du camp où on n'a plus de partenaires d'entraînement parce que tout le monde est retourné à la maison, mais également pour couvrir tous les aspects que notre adversaire va nous apporter ce soir-là. Là, que ce soit au niveau de la vitesse d'exécution, de la force de frappe, peu importe les qualités de l'adversaire, il faut être en mesure d'aller chercher à peu près tous les départements. Là.
Est-ce que c'est une pression supplémentaire de se battre à domicile, de se battre au Québec, de vouloir répondre aux attentes? Est-ce que ça, Arthur a ça en lui?
Il a ça en lui. Je te dirais, écoute, ça dépend des athlètes. J'ai vu des boxeurs que ça les écrasait, il y a des boxeurs que ça les motive beaucoup. Avec Arthur, je suis pas encore une fois très stable. Je suis pas très inquiet. Même qu'il m'en a parlé depuis un bout. Il a fait la majorité de ses combats en début de carrière ici au Québec. Par la suite, une majorité de combats étaient faits aux États-Unis, mais il avait hâte de reboxer ici et on ne savait pas si ça allait arriver. Alors, le fait quand on nous a proposé là, de faire ça ici au Québec, tout le monde était très content.
Et juste à titre d'information, je voyais que tu as été pendant longtemps matchmaker également. Tu trouvais les adversaires. Est-ce que tu as eu ton mot à dire sur le choix de cet adversaire-là pour Arthur?
Non, du tout. Mais en fait, un, je fais plus de matchmaking, mais deux, c'est un adversaire qui est obligatoire, qui était imposé par la IBF, qui est aspirant obligatoire. C'est pas un aspirant qu'on a choisi. Okay. Alors, c'est un double défi.
Un double défi, définitivement. On va s'arrêter quelques instants, si tu veux bien, Marc Ramsey, qui est entraîneur d'Arthur Beterbiev. Et au retour, je veux que tu me racontes comment ça a débuté, cette histoire-là, cette relation professionnelle-là avec Arthur Beterbiev. On le sait, passé, écoute, grosse famille, pas beaucoup de revenus, part de la Russie, s'amène ici. C'est une histoire incroyable, celle de Beterbiev. Et Marc Ramsey est là avec nous pour nous l'expliquer. On fait une courte pause. Écoutez les amateurs de sport sur l'ensemble du réseau Cogeco. On s'entretient avec Marc Ramsey, qui est entraîneur d'Arthur Beterbiev, qui se battra le 28 mars prochain au Centre Vidéotron face à Phan Long Mang. Duel, évidemment, un combat de championnat du monde. Avant d'aller à la pause, je demandais à Marc de nous expliquer comment ça a débuté, cette histoire-là. Comment tu es arrivé en relation professionnelle avec Arthur Beterbiev?
En fait, la première fois que je connaissais chez les amateurs, parce que je suis encore beaucoup, je suis issu comme entraîneur du programme olympique canadien et j'ai suivi toutes les grandes équipes internationales et je l'ai vu arriver doucement en boxe amateur avec la Russie où il y avait beaucoup de succès. Et la première fois que je l'ai vu vraiment live, c'était à Chicago en 2007 pour les championnats du monde amateur et c'est les mêmes championnats du monde où j'ai recruté Eléder Alvarez et Oscar Rivas. Et j'étais allé là pour voir justement des boxeurs et voir qui on pouvait mettre sous contrat. Mais à cette époque-là, c'était à peu près impossible d'approcher l'équipe de Russie. Il y avait une grande entreprise qui s'appelait Universium, qui était en Allemagne, qui embauchait à peu près tout ce qui se faisait en Europe. Alors, il y avait à peu près pas de contact pour les promoteurs là, nord-américains pour approcher les Russes. Alors, je voyais qu'il était bon, mais encore une fois, c'était pas une cible vraiment. Je te dirais... Peut-être 2 ans par la suite, il y a un homme d'affaires du Québec et une femme d'affaires du Québec qui m'ont approché, qui m'ont demandé si on a un budget, on aimerait que tu nous soumettes une liste de 5 noms avec des boxeurs qui sont issus de cette région-là, qui est une bonne région de boxe. Et ils m'ont demandé là, de mettre une liste et être en mesure de un peu cibler qui étaient les meilleurs boxeurs. J'ai fait ça. Jamais j'ai pensé qu'ils seraient en mesure d'aller chercher un boxeur qui était sur cette liste-là. Et ils sont revenus. On a peut-être un deal avec Beterbiev. T'es-tu intéressé de le coacher? Et là, à ma grande surprise, bien sûr que je suis intéressé à le coacher. Et, déjà qu'il était avec un style très professionnel, il s'imposait chez les amateurs, qui était un sport complètement différent. Mmh. Et pour moi, il y avait une transition qui était facile pour les professionnels. Il était fait pour la boxe professionnelle. Alors, on s'est rencontrés, on l'a fait venir à Montréal, moi, les deux partenaires d'affaires qui sont allés chercher à cette époque-là. Et on s'est rencontrés dans un restaurant, on s'est parlé un petit peu, on a décidé d'aller de l'avant avec ça. Il est déménagé à Montréal à partir de ce point-là.
Mais il y avait des barrières quand même, il y avait des barrières de langage.
Oui.
À l'époque, il s'exprimait pas en anglais, je pense, ou très peu.
Très peu.
Comment on arrive à développer une relation d'affaires, de business, d'entraîneur, boxeur, quand on ne peut pas communiquer par le langage?
Mais je te dirais, tout ce qui est boxe, ça va. On est en mesure, un jab, c'est un jab, une droite en anglais, c'est une droite. Il est en mesure de comprendre les termes de boxe. Ça allait assez bien. J'avais un traducteur la plupart du temps, au début même dans les entraînements et à tous les combats. Par la suite, je suis allé chercher un gars comme André Kulesha, qui est son conditionneur physique, qui parle très bien russe. Alors, je me suis entouré pour être en mesure d'avoir une communication qui était assez bien avec lui. a rapidement été en mesure d'apprendre l'anglais. Et par la suite, également, on était en mesure là, de cesser d'apporter là, des traducteurs dans le gymnase. Et un petit peu plus tard, on était en mesure là, de vraiment faire les combats seulement en anglais avec lui. Et là, on a développé une relation qui a de l'allure.
OK. Relation qui a de l'allure. Est-ce qu'on peut parler de relation d'amitié?
Non. Non, parce que et non pas parce que c'est pas possible, mais juste... C'est quelque chose que j'ai fait dans le passé qui m'a peut-être nuit avec d'autres relations.
En quoi ça nuit?
En fait, c'est qu'il faut savoir tracer une ligne. Ces individus-là, premièrement, c'est eux qui me payent. Contrairement aux autres sports professionnels, c'est vraiment la clé professionnelle qui paie l'entraîneur et eux paient pour un service qui est d'être un entraîneur professionnel. Et je trace une ligne entre être l'entraîneur professionnel et être un ami. Bien sûr, je suis ouvert à tous les problèmes, à leur histoire. C'est même quelque chose qui est important de savoir d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils sont, pour bien comprendre l'individu avant de l'entraîner. Mais il y a une ligne à ne pas dépasser et j'essaie d'être le plus professionnel possible dans l'approche.
Quand tu dis on doit tracer une ligne, comment on fait lorsqu'il faut arriver à ces speeches légendaires qu'on a entendus entre les rounds où là, je dis pas que tu rentres dedans, mais tu vas sous la peau du boxeur pour dire là, c'est là que ça se passe. Comment on arrive à faire ça? Si on n'a pas cette proximité d'amitié-là?
Mais sans que ça verse dans l'amitié. Tu sais, je fréquente jamais les boxeurs professionnels en dehors du cadre là, du gymnase, mais je m'intéresse beaucoup à qui ils sont, d'où ils viennent, les cultures. Je m'intéresse vraiment à tout ça pour être en mesure justement de développer quelque chose qui est solide, même si on ne verse pas encore une fois dans l'amitié. Ils savent que la porte est ouverte, que je suis toujours présent pour eux, mais ça se limite encore une fois au gymnase de boxe.
On s'est parlé durant la pause et j'ai dit de la Russie. Tu m'as dit non, c'est un Tchétchène, il y a une différence, évidemment. Et ça, j'ai l'impression que tu accordes une importance capitale à ça, de bien connaître ton athlète qui est là pour être en mesure de saisir ce qui peut tourner alentour de ton athlète.
En premier, je te dirais que je me suis toujours intéressé à la provenance de mes boxeurs, que ce soit les Colombiens, que ce soit Arthur ou le groupe de boxeurs que j'ai de la région de la Russie, j'ai des boxeurs du Kazakhstan, par intérêt personnel, mais également, c'est que je me suis rendu compte avec le temps qu'en comprenant bien la culture d'où ils venaient, c'était plus facile pour moi d'être en mesure de les entraîner d'une façon qui est optimale, d'être en mesure de bien les comprendre, de comprendre dans quel genre d'environnement ils viennent. Je me renseignais également au niveau des équipes amateurs internationales pour savoir est-ce que l'équipe de Russie a eu des problèmes de discipline, des problèmes de psychologiques, est-ce qu'il y a des problèmes médicaux? Avoir le maximum de renseignements pour être en mesure de bien manager tout ça. Là.
Arthur est musulman. Évidemment, un calendrier dans une journée qui est différente. Il y a des prières. Quand tu es entraîneur, tu disais que tu avais plusieurs dossiers en même temps. Tu dois gérer aussi l'horaire de la journée en fonction, évidemment, des besoins d'Arthur?
Très peu. Un peu, mais très peu. Je te dirais, souvent, vois-tu, en règle générale, on s'entraîne à l'entour de 3 heures avec Arthur. Alors, habituellement, il arrive au gymnase, il me salue, il fait une prière dans mon bureau et par la suite, on commence l'entraînement immédiatement. C'est arrivé à certaines époques où on s'entraînait à des heures différentes et que l'heure de la prière est en plein milieu de l'entraînement. Mais quand il donne toute l'énergie, toute la concentration comme il me donne, c'est une prière de 5 minutes, c'est loin d'être un problème. J'ai vécu d'autres problèmes beaucoup plus durs à gérer que ça. Alors, je lui laisse son 5 minutes, on reprend l'entraînement, il n'y a aucun problème. Et puis, c'est loin. À vrai dire, c'est quelque chose de positif.
Marc Ramsey, ce fut un plaisir. Merci d'avoir pris du temps pour nous. Puis le plus grand succès possible pour ce duel du 28 mars prochain au Centre Vidéotron. Arthur Beterbiev qui affrontera Phan Long Mang pour un combat de championnat du monde. Merci beaucoup, Marc, d'avoir été
Merci.
Avec nous. Merci énormément. Voilà, c'est déjà tout. Merci à Maxime Pépaquet, la mise en onde. Restez là, retour. C'est Derek Aucoin qui s'amène pour Bonsoir les sportifs. En mon nom personnel et au nom de toute l'équipe, bonne soirée à notre antenne.